Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Avec à la une ce matin, le Covid qui circule dans les écoles. Le gouvernement impose un protocole plus strict dans les 19 départements partiellement confinés. Et à partir de lundi, un seul cas positif et c'est toute la classe qui sera fermée. Les autres titres, Hélène.
Le Rwanda et un rapport sans concession remis hier à Emmanuel Macron. Les historiens ont pu fouiller dans les archives pendant 2 ans. Conclusion, pas de complicité volontaire, mais lourde et accablante responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. On y reviendra aussi avec votre invité Eric à 8h20.
Oui, ce sera Vincent Duclair, le président de cette commission, chargé donc par Emmanuel Macron de faire la lumière sur cette douloureuse séquence.
L'affaire des fadettes, Jean Castex saisit le conseil de la magistrature, Ariane Grissel nous éclaire sur cette affaire complexe. Et puis le rugby, le coq et la crête basse, le 15 de France, battu 27 à 23. C'est l'Écosse qui soulève le trophée du tournoi des Six Nations.
France Inter.
Plus de 20 000 élèves contaminés, 3 000 classes fermées, une centaine d'écoles. Le virus circule dans les cours de récré, c'est indéniable. Sous la pression des syndicats et des élus locaux, le gouvernement a donc décidé de serrer la vis. Olivier Véran avait promis un protocole sanitaire renforcé dans les établissements. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, applique. Dans les 19 départements en confinement local, un seul cas de Covid désormais et c'est toute la classe qui ferme. À partir de lundi, la liste Alexis Morel risque de s'allonger.
Le ministre lui-même le reconnaît. Oui, avec cette nouvelle règle, les classes fermées risquent de se multiplier à partir de lundi dans les départements concernés. Un seul élève positif suffira, contre 3 jusqu'à maintenant. Encore faut-il pouvoir détecter les cas, alors qu'en primaire, seuls 2/3 des tests salivaires proposés la semaine dernière ont été effectivement réalisés. Jean-Michel Blanquer espérait un plus grand taux d'acceptation des familles. Et quand l'enseignant est malade ou cas contact, eh bien le ministre promet des recrutements de remplaçants supplémentaires. Il n'y en a plus aujourd'hui par endroit, mais sur le terrain, on doute fort qu'ils arrivent rapidement. Rien de neuf sinon pour la cantine, ni pour les collèges. Les syndicats réclamaient le passage en demi-jauge, comme c'est le cas pour les lycées des zones les plus touchées. Il n'y aura pas de généralisation. Les rectorats n'accorderont cette demi-jauge qu'au cas par cas. C'est un déni de réalité, réagit le SNES-FSU, principal syndicat du secondaire. Moins critique, l'UNSA salue des mesures nécessaires, mais trop tardives.
Le SNIPPFSU qui maintient son préavis de grève pour mardi prochain. Et la situation n'est pas critique qu'à l'école. Le variant britannique continue ses ravages. 4700 malades en réanimation hier. On est tout proche du pic de novembre. Plus de 300 morts en 24 heures. Le vice-président de la métropole de Lyon s'affole. On a des chiffres alarmants, dit-il, avec des taux d'incidence qui atteignent par endroits les 1000 cas pour 100 000 habitants. Le Rhône, avec la Nièvre et l'Aube, qui ont rejoint depuis ce matin les 16 autres départements en confinement partiel depuis une semaine. Interdiction de dépasser les 10 km autour de chez soi ou de changer de région à moins d'un justificatif. Les contrôles depuis hier soir ont été renforcés dans les aéroports, les gares et les péages, 90 000 policiers mobilisés. La course contre le virus qui passe, on le sait, par la vaccination à partir d'aujourd'hui, élargie aux personnes de 70 à 75 ans sans comorbidité.
Un rapport de chercheurs pointe les responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
800 000 morts en 3 mois et le rôle de la France, sujet explosif depuis plus de 25 ans. Ces chercheurs, ces historiens ont pu pendant 2 ans fouiller dans les archives françaises. Ils ont rendu leur rapport hier à Emmanuel Macron, un rapport sans concession qui pointe la faillite et l'aveuglement du gouvernement Mitterrand. Une politique d'alignement sur le régime Hutu enserré par les extrémistes. Une politique qui a avivé, disent-ils, les tensions et d'une certaine manière renforcé les possibilités du génocide. Pas de complicité intentionnelle de la part de la France, mais donc une responsabilité indéniable. C'est une avancée, salue hier le Rwanda, qui ne compte pas malgré tout se contenter de ce rapport. À Kigali, correspondance Laure Broulard.
Si le ministère des Affaires étrangères salue un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis, il annonce également la publication prochaine d'un autre rapport d'enquête commissionné par le gouvernement rwandais et qui viendra compléter et enrichir les conclusions de la commission Duclair. Nous n'attendons pas de la France qu'elle nous dise ce qu'elle a fait, nous le savons. Mais cet effort de vérité historique est le bienvenu, assure Jean-Paul Kimonio, ancien conseiller du président Paul Kagame. À Kigali, le rapport Duclair est surtout vu comme un signe supplémentaire de la volonté d'Emmanuel Macron de normaliser les relations entre les deux pays. Après le soutien à l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, ou la désignation du 7 avril comme journée officielle de commémoration du génocide contre les Tutsis. Kigali, Laure Broulard pour France Inter.
Ce rapport est une avancée considérable pour Emmanuel Macron, qui promet de poursuivre ses efforts contre l'impunité des responsables du génocide. L'ancien ministre socialiste Hubert Védrine, quant à lui secrétaire général de l'Élysée à l'époque, salue l'honnêteté du rapport qui écarte toute complicité de la France. On y reviendra donc avec le président de la commission, votre invité Eric à 8h20. Et dossier complet sur le Rwanda à retrouver aussi sur franceinter.fr. Des milliers de soldats, de chars, de missiles sur une immense esplanade dans la capitale birmane ce matin. La junte défile pour commémorer la résistance à l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion surtout d'une démonstration de force alors que la contestation contre le coup d'État ne faiblit pas. Les pro-démocraties ont d'ailleurs prévu de manifester encore aujourd'hui. Et puis en bref, encore les opérations pour dégager le porte-conteneur qui bloque le canal de Suez en Égypte depuis mardi vont reprendre aujourd'hui. Deux remorqueurs sont attendus d'ici demain. Il faut dire que le cargo de 400 mètres de long a créé un embouteillage monstre, plus de 200 navires coincés à l'entrée et à la sortie de ce canal qui voit passer en temps normal 10% du commerce maritime mondial, véritable pont entre l'Occident et l'Asie.
L'actualité ce matin, c'est aussi l'affaire des fadettes, Hélène, puisque Jean Castex saisit le Conseil de la magistrature.
Pour de possibles fautes disciplinaires concernant l'ancienne chef du parquet national financier, Éliane Houlette. En septembre, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait lancé cette enquête contre trois magistrats. Il s'agissait de vérifier s'il n'y avait pas eu des manquements au cours des investigations sur la taupe, sur celui ou sur celle qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute dans une affaire de corruption. Explication avec Ariane Grissel.
L'enquête administrative met en avant des présomptions de fautes disciplinaires. Autrement dit, ses auteurs se demandent s'il n'y aurait pas des conflits d'intérêts entre l'exercice professionnel d'Éliane Houlette et ses relations privées. Ils s'interrogent aussi sur le comportement managérial de l'ancienne chef du parquet financier, désormais à la retraite. Éliane Houlette, elle, a toujours refusé de répondre à l'inspection générale de la justice, estimant que celle-ci n'est pas compétente en la matière. Jean-Pierre Versini-Campinqui est son avocat.
Elle savait qu'elle a pu déplaire pour avoir refusé, ceci pour des motifs de principe importants, de répondre aux convocations de l'inspection des services judiciaires. Elle ne s'est jusqu'ici jamais expliquée sur de supposés manquements déontologiques dont elle ignore tout. Elle se rendra bien entendu aux convocations du Conseil supérieur de la magistrature, seul compétent pour apprécier la réalité de prétendus manquements déontologiques.
Patrice Amar, premier vice-procureur du parquet national financier, devra lui aussi s'expliquer devant le Conseil supérieur de la magistrature. Selon le Premier ministre, l'enquête fait naître un doute sérieux quant au respect de ses obligations déontologiques. L'inspection générale de la justice conclut en revanche que les deux magistrats ont, lors de l'enquête préliminaire à l'origine de cette procédure, toujours agi dans le cadre de la loi.
Ariane Grissel. Enfin le rugby, désillusion pour les Bleus, c'est l'Écosse qui soulève le trophée. Tournoi des Six Nations, les Bleus terminent deuxième, battus hier soir à la dernière minute de jeu, 27-23. Le 15 de France, faut le dire, partait de loin, condamné à l'exploit, a marqué au moins 4 essais et a gagné avec 21 points d'écart. Une deuxième place, de quoi nourrir Fanny Lechevestrier, autant d'espoir que de regrets.
Bien sûr, les jeux de mots sont faciles ce matin, de l'éculé, douche écossaise, aux Bleus qui se sont gaufrés, référence un brin méchant à cette sortie gustative à Rome. Des jeux de mots qui piquent à la hauteur des espoirs que l'équipe de France a suscité. Tout le monde se réveille un peu sonné ce matin, à commencer par le sélectionneur Fabien Galthié.
C'est dur à encaisser de perdre comme ça.
Le regard dans le vide, le troisième ligne, Grégory Aldrit tente lui d'expliquer les raisons d'une défaite à la 86e minute de jeu, 6 minutes donc après le gong final.
On voulait pas seulement la victoire, on a essayé de chercher plus. Et on se retrouve avec un match perdu, donc c'est vrai que c'est un peu dommage là-dessus. On est surtout tombé sur une très belle équipe d'Écosse aussi, voilà, qui a fait un très gros tournoi.
Ce n'est pas faux, mais les Bleus ont aussi déjoué hier soir. De là à tout jeter, il ne faudrait pas oublier la jeunesse d'une équipe née il y a 18 mois, rappelle le capitaine Charles Olivon.
À nous d'apprendre de ces péripéties-là, c'est des erreurs qui nous font grandir et revenir plus fort.
Et on peut leur faire confiance, car le talent, ces Bleus-là, long, c'est certain, autant que nos regrets éternels de savoir ce que cette équipe aurait donné si elle n'avait pas vu son tournoi coupé en deux par des cas de Covid au sein de la bulle tricolore.
Et pour le classement, donc l'Écosse grand vainqueur, les Bleus en deuxième comme l'an dernier, suivi par l'Irlande et l'Écosse. L'Angleterre et l'Italie ferment la marche.
Merci Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Jean-Pierre Hameau, c'est le début d'un week-end frais et nuageux sur une grande moitié nord du pays.
Oui Eric, nous allons retrouver un ciel de traîne ce matin dans la plupart des régions avec quelques averses essentiellement le long des frontières du Nord. Le soleil quant à lui va se réfugier entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA en passant par la basse vallée du Rhône, sans oublier l'île de Beauté. Puis cet après-midi, les nuages seront majoritaires sur une bonne moitié nord du pays. Vous profiterez quand même d'assez belles éclaircies dans le sud-ouest. Prévoyez un bon ensoleillement sur un grand quart sud-est. Mistral et Tramontane vont souffler entre 50 et 60 km/h dans leur domaine. Puis côté température, les maximales évolueront entre 10 et 20 degrés du nord au sud. Dans le détail, prévoyez 10 à Metz, 11 à Lille. N'attendez pas plus de 12 degrés à Paris comme à Dijon. Comptez 13 à Orléans, 14 à Lyon, 16 à Bordeaux, 18 à Ajaccio et on ira jusqu'à 20 degrés à Toulon.
Jean-Pierre Hameau, Météo France.